Nom de code, Pegasus. Des espions dans nos téléphones. En 2017, le journaliste mexicain Javier Valdés Cárdenas s'est mis à dos le gouvernement d'Enrique Peña Nieto. Après une carrière classique de journaliste à la télévision nationale, il devient indépendant. Dans ce pays, la liberté de la presse est risquée. En 2003, avec des reporters du quotidien Noroeste, un journal très conventionnel, ils fondent le Yodos, un hebdomadaire sulfureux traitant de la criminalité liée à la corruption dans l'état de Sinaloa. Selon lui, le gouvernement mexicain a tout intérêt à laisser s'envenimer la situation pour des raisons financières. Son journal est libre de se vendre pendant près de 14 ans jusqu'en 2017, où il est retrouvé mort, criblé de balles devant les portes de son siège social. Une enquête révélera que le portable du journaliste était sur la liste des numéros piratés, comme ceux d'autres opposants politiques et d'enquêteurs mexicains. Au total, le gouvernement de Nieto aurait payé plusieurs millions de dollars au groupe NSO pour l'installation du logiciel espion et la récolte des données. Ce pays d'Amérique centrale détient même le record du nombre de numéros détournés. L'enquête de la coalition journalistique parle de 15 000 numéros. L'Europe n'est pas non plus exempte de cet abus d'autorité. La Hongrie serait en possession de 300 numéros de téléphone susceptibles de faire l'objet d'une surveillance par le logiciel. Si certains appartiennent au milieu du grand banditisme, d'autres ont pour propriétaires des journalistes et des avocats. À plusieurs reprises, ils ont exprimé leur opposition au régime politique de Viktor Orban. Et bien sûr, la France n'échappe pas à ce fléau. Le président de la République, Emmanuel Macron, pour une raison qui échappe aux enquêteurs, a conservé la même ligne téléphonique ouverte au premier jour de sa campagne présidentielle en 2017. Certains estiment qu'il aurait dû changer de ligne une fois élu président pour des raisons de sécurité. Ces numéros ont fuité pour se retrouver dans la base de données des services d'espionnage marocains. En 2019, les hackers des services étrangers en font usage pour infiltrer son téléphone. On estime que les services marocains ont pu notamment espionner les conversations privées du chef de l'État. C'est également le cas de 14 autres personnalités de son gouvernement, ainsi que leurs proches, comme Édouard Philippe ou paradoxalement, l'un des chefs de la sécurité de l'époque, Alexandre Benalla. L'ancien ministre de la Transition écologique et ex-président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, a lui aussi été ciblé à l'époque. L'expertise révèle 3 tentatives d'intrusion, toutes infructueuses. Philippe Bouissou, le maire d'Ivry, avait également été victime d'une tentative d'intrusion le 6 juillet 2021. Qu'a fait la France pour mériter une telle surveillance de la part du gouvernement marocain? En ressort une question sur l'indépendance du Sahara occidental. La situation géopolitique de ce territoire est complexe. À la suite de nombreux conflits depuis la période des colonies, l'ONU en fait une zone dite non autonome en 1963. Le Maroc voudrait bien prendre possession de ce territoire pour le placer sous son administration. L'accès lui est refusé. La France a toujours soutenu les Sahraouis dans leur quête d'indépendance. Le vote de Bouissou au conseil municipal d'une subvention aux enfants Sahraouis semble être très mal passé auprès des autorités marocaines. L'utilisation de Pegasus survient une semaine après. Le Maroc n'a pas non plus hésité à surveiller les téléphones de personnes proches de militants indépendantistes Sahraouis. Comme cela a été le cas pour Claude Mangin, l'épouse de Nahama Asfari. Quelques semaines après la parution de l'enquête, le Maroc se défend. Pour le gouvernement, c'est un mensonge, un complot des pays occidentaux pour le déstabiliser. Ce royaume s'est toujours montré pacifique. La France est un ami. Le roi Mohamed VI ne comprend pas le sens de cette accusation. Il redoute des retombées diplomatiques. Pour sa défense, il affirme avoir été personnellement visé par une organisation indépendante de son État. Ses proches seraient également de potentielles cibles du groupe NSO, comme son ex-épouse, Salma Benhani, la famille de son cousin, Hicham Ben Abdallah Alaoui, et son chef du gouvernement, Saadine El Othmani. La télévision marocaine a également produit un reportage visant à remettre en cause les méthodes de cette enquête dirigée par Forbidden Stories. En janvier 2023, le Maroc décide de poursuivre en justice le journaliste espagnol Sembrero. Ce dernier a dénoncé le pays d'être responsable du piratage de son téléphone portable dans le courant de l'année 2021. Son numéro figure d'ailleurs dans la liste des 180 journalistes pouvant faire l'objet d'un espionnage par le logiciel Pegasus. L'accusation est encore une fois sans preuve, selon le Maroc. Le journaliste dit avoir retrouvé dans une publication l'intégralité des échanges qu'il a eus avec des interlocuteurs espagnols via l'application WhatsApp. L'article aurait été rédigé par des personnes utilisant Pegasus. Tout cela reste des suppositions, car aucune preuve décisive n'a été produite, aucune condamnation n'est intervenue, et le doute subsiste. Dans une interview, Sembrero a fini par admettre qu'il n'avait pas la preuve formelle de ce qu'il avançait. Ce n'est pas le seul procès que le Maroc compte entreprendre. Le gouvernement a l'intention de faire pression sur tous les journalistes qui ont enquêté sur l'affaire Pegasus. Alors, ce pays serait-il vraiment client du groupe NSO ? On ne peut se baser que sur quelques faits. Il a été démontré que des journalistes indépendants marocains faisaient également partie de cette liste, comme Omar Radi, Hamid El Madawi ou encore Taoufik Bouachrine. Ces journalistes sont poursuivis par les autorités marocaines. À la suite de quoi, Amnesty International a décidé de faire appel à la Security Lab pour comprendre l'objet de ces attaques de la part du gouvernement. Les téléphones portables de certains de ses membres, ainsi que des défenseurs des droits de l'homme au Maroc, sont inspectés. 37 téléphones présentent des traces d'infection du logiciel. Pour rester transparent, l'organisme publie sur son site un rapport sur ses méthodes d'analyse et de recherche, en prenant l'exemple du téléphone de l'activiste marocaine Mahati Mounjib. Les recherches permettent de mettre en évidence plusieurs redirections suspectes retrouvées dans l'historique de navigation de Safari. Il s'agit d'URL d'origine étrangère ne menant nulle part. Ces mêmes URL ont également été détectées sur le téléphone portable du journaliste marocain condamné, Omar Radi, prouvant ainsi plusieurs attaques ciblées par injection de réseau réalisées par des dispositifs tactiques. Dans son rapport, Amnesty International n'est toutefois pas certain de la nature de ces dispositifs. Il peut s'agir de tours cellulaires visant à piller des données pour les revendre à des sociétés commerciales ou à des équipements placés auprès de son opérateur de téléphonie mobile. Si les analyses du Security Lab sont jugées pertinentes, elles ne suffisent pas à accuser une nation en particulier. En revanche, tous les doigts sont pointés en direction de l'entreprise NSO Group. De son côté, l'entreprise israélienne affirme que cette liste a été truquée, que les 50 000 numéros de téléphone proviennent en réalité d'utilisateurs du service HLR Lookup. Celui-ci permet à différentes organisations ou entreprises, principalement commerciales, de vérifier la validité d'un numéro de téléphone dans un but de prospection. Pour réaliser une recherche HLR, pour Home Location Register, il faut interroger une base de données de numéros mobiles. Ainsi, cela donne automatiquement accès aux données personnelles. Nous sommes tout de même très loin de l'utilisation d'informations privées, comme des conversations téléphoniques, des SMS ou des échanges WhatsApp. Cela voudrait-il dire que le projet Pegasus n'est pas aussi alarmant que le prétendent les défenseurs des droits de l'homme ? NSO Group semble prendre tout ça un peu trop à la légère. Est-ce que cela cacherait des intérêts plus grands ? Cette affaire d'espionnage n'est peut-être que la partie visible de l'iceberg. Pour les journalistes, il s'agit du plus grave scandale d'espionnage depuis l'affaire Snowden en 2013. Si n'importe quel gouvernement du monde peut avoir accès à cette technologie pour une poignée de millions de dollars, alors les données de la vie privée d'un nombre très important de personnes de par le monde sont menacées. Il faut tout de même rappeler que le logiciel est capable de permettre d'utiliser et d'activer à distance le micro, l'appareil photo et vidéo des téléphones infectés. Les hackers peuvent ainsi voler des sons et des images de la vie intime de leurs victimes. Pour le moment, ce logiciel ne peut être vendu qu'à des clients étatiques. NSO se vante d'ailleurs de son portefeuille client comptant près de 40 pays. C'est ce qu'affirme l'entreprise israélienne. Mais qu'en est-il de la vérité ? Il est certain que de nouvelles révélations vont être mises au goût du jour. Seul l'avenir nous en apprendra plus sur les retombées catastrophiques ou non du logiciel espion. En tout cas, des hommes et des femmes, journalistes, activistes, membres d'organisations non gouvernementales, opposants politiques, risquent d'être assassinés si ce type de logiciel espion est l'objet d'une utilisation malveillante des données piratées.